BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour une émission Focus Retail bien particulière, un salon où la crispation agricole est encore bien présente, une fréquentation en baisse, notamment liée à l'absence des vaches sur le salon, mais aussi face à l'attente de la dermatose, l'attente aussi des décrets de loi d'orientation agricole, la loi Duplomb, les interrogations quant à la PAC et au Mercosur. Et cette année sur le salon, Lidl est encore une fois présent, c'est le seul distributeur à être là depuis 11 ans consécutifs. J'aurai le plaisir de recevoir la porte-parole France, Anouk Pomard. Elle viendra nous détailler justement les engagements que Lidl a pris sur ce salon. Et puis, on ira faire un tour également du côté du concours agricole avec une jeune lauréate qui vient tout juste d'obtenir sa première médaille d'argent. On fera le point avec elle sur ses attentes. Cette médaille qui est souvent très importante et qui permet de booster les ventes des jeunes TPE, PME ou encore des producteurs, des jeunes agriculteurs. Allez, Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Anouk Pomard, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de BFM Business, délocalisé pour l'émission sur le Salon de l'Agriculture. Vous êtes porte-parole de Lidl en France. À mes côtés sur ce plateau, François Valada, vous êtes directeur des solutions Data Franche chez Vision. Bienvenue également. Vous êtes notre expert. Alors, c'est donc la 11e année consécutive que Lidl est présent sur le Salon de l'Agriculture, toujours seul distributeur à y participer. Votre stand est plus petit que d'habitude, mais vous avez toujours vos salariés, vos collaborateurs qui le tiennent, vos salariés ambassadeurs. Alors cette année, ça marque aussi les 10 ans de vos contrats tripartites signés entre éleveurs, producteurs et Lidl. En tout, 15 contrats sur les filières bœuf, porc et lait. C'est 6000 producteurs concernés. Mais l'an dernier, vous avez opéré un repositionnement, notamment sur le prix de milliers de produits. Est-ce que ça a impacté les producteurs ?
Alors pas du tout, parce que la conviction profonde de Lidl, c'est le fait de pouvoir préserver la matière première agricole, de pouvoir s'engager vis-à-vis des agriculteurs de manière durable et surtout à long terme, mais aussi de préserver le pouvoir d'achat de nos clients. Et c'est la conviction de base de Lidl en France, et c'est l'essence et l'ADN du modèle discount surtout. Donc le meilleur prix, la meilleure qualité, un assortiment réduit, des magasins plus petits, et un stand légèrement plus petit, puisqu'on a quand même un très grand stand sur le Haut-Lin cette année.
Alors justement, les éleveurs de porc sont percutés par la baisse des cours, moins 10% l'an dernier. De quelle manière est-ce que vous arrivez à les soutenir ?
Alors je dirais qu'il y a deux manières. D'abord, la première, c'est l'intensité du dialogue. Aujourd'hui, le Salon de l'Agriculture, ça donne un coup de projecteur sur nos engagements, mais en réalité, ce n'est pas un rendez-vous, c'est la continuité d'engagements qui doivent se faire tout au long de l'année. Donc, le premier impératif, c'est continuer à dialoguer tout au long de l'année. Le deuxième, c'est d'engager des contrats pluriannuels avec les différentes filières. Pourquoi ? Pour donner de la visibilité. Aujourd'hui, les agriculteurs ont du mal à faire face, vous l'avez dit. On a entendu, comme tous les Français, la colère agricole dans les rues, partout, dans nos magasins, etc. Et évidemment, on est dans l'empathie. Et c'est à nous, distributeurs responsables, de donner les moyens pour l'agriculture française de se développer demain.
Et comment est-ce que les contrats sont revalorisés chaque année ?
Bien sûr, en réalité, la pluriannualité n'empêche pas le fait de renégocier les contrats, c'est donner de la visibilité. Et l'idée, c'est toujours préserver la valeur de la matière première. La matière première, c'est ceux qui nous nourrissent. Et nous, on ne fait que vendre les produits de ceux qui nous nourrissent. Donc, le principe du discounter que nous sommes, c'est celui d'avoir très peu de marques nationales dans nos rayons. Quand vous entrez dans un Lidl, vous trouverez des marques dites de distributeurs qui sont faites pour Lidl et de manière durable aux côtés des producteurs.
C'est combien justement le ratio de ces marques de ces MDD ?
C'est 90% de nos rayons aujourd'hui, les MDD, ouais.
Alors en ce moment, on parle beaucoup de la pénurie d'œufs hein, dans les rayons des magasins. Je ne suis pas allée vérifier dans tous les Lidl de Paris, mais qu'en est-il ? Est-ce que vous faites appel, vous importez des œufs étrangers ?
Alors, pour vous répondre, d'abord, c'est le sujet de la filière œuf, c'est un sujet qui est complexe parce qu'en fait, il est aussi la conséquence d'une évolution du mode de consommation des Français. Aujourd'hui, les Français regardent leur portefeuille, c'est une évidence, on fait attention au pouvoir d'achat. Donc on est passé d'une viande à des produits comme le poulet, la volaille, puis de la volaille et au poulet aux œufs. Aux œufs, nous, on observe plus 20% de ventes d'œufs dans nos rayons au niveau national, donc c'est énorme. Après, il y a une question de structuration de la filière. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette nouvelle demande? Et là aussi, on a un rôle, nous, de distributeurs, d'accompagnement. Donc, on a pris des engagements dans la durée pour les accompagner. Après, il y a évidemment le rôle des pouvoirs publics. Hein. Mais tout le monde a un rôle dans la...
Oui, mais les pouvoirs publics ne font pas grand-chose pour ces structures-là. C'est vraiment la Fédération des œufs qui gère. Vous, alors, comment est-ce que vous vous engagez concrètement?
Alors, nous, on a signé un partenariat avec la filière pour passer à l'échelle et investir dans de nouveaux poulaillers. Mais après, il y a toujours un sujet réglementaire qui est un sujet aussi de difficultés, de normes, de régulation. Et ça pèse beaucoup sur cette filière en particulier, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué de s'installer pour un nouvel entrant dans ce type de filière. C'est très compliqué.
Et alors justement, vous faites appel à des œufs étrangers ?
On le fait le moins possible. On l'a fait, mais c'est une minorité toujours de notre assortiment. Et nous, l'idée, c'est vraiment de rester sur une grande majorité de produits français. Aujourd'hui, c'est 70% de nos produits qui sont français dans nos rayons.
Alors, on parle d'un engagement là auprès donc de la filière œuf. Vous avez d'autres engagements autour du zéro déchet, autour de choses comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, Lidl est un modèle européen, ça vous le savez peut-être. Nous avons deux différences avec les autres supermarchés que vous connaissez ou acteurs de la grande distribution. La première, c'est que nous avons un modèle intégré, ce qui veut dire que nos salariés sont ni indépendants ni franchisés, ce sont nos salariés d'enseigne. Et ça permet aussi d'aller plus vite dans l'élaboration de feuilles de route. Donc on en a mis en place une feuille de route très ambitieuse jusqu'à 2030 à l'échelon européen, puisque nous sommes présents dans 32 pays. Et l'idée, c'est de passer, d'être en avance de phase sur ces sujets recyclage, anti-gaspillage, packaging. Et force est de constater que quand on produit ces produits, on est maître des cahiers des charges. Donc, on peut tout de suite impacter l'emballage plastique. On peut tout de suite décider d'être le meilleur élève de la classe, en réalité.
Alors moi, j'avais une question, puisque là, sur ce salon, vous avez fait plusieurs annonces. Vous avez notamment annoncé un partenariat avec l'APAL. C'est l'Association de Production Animale de l'Est. C'est-à-dire que vous avez voulu créer un rémunérascore. C'est une notation de rémunération des producteurs sur les produits. Combien de produits sont concernés par ça?
Actuellement, on a 6 références de viande bovine et limousine qui sont dans la démarche du rémunérascore. Alors, le rémunérascore, vous connaissez le Nutri-Score. Hein, ça, c'est implanté par tout. Nous, on a à peu près 70% de nos produits qui sont en Nutri-Score et la moitié en A ou B. Le rémunérascore, l'idée, c'est que pour le consommateur qui rentre en rayon, il va avoir face à lui un produit dans lequel il saura, s'il passe à l'acte d'achat, quel est le montant reversé aux agriculteurs et aux éleveurs bovins. Donc, c'est une manière très rapide et très concrète de favoriser l'acte d'achat, parce que même si nous avons une responsabilité, au final, c'est le consommateur et le client qui choisit.
Donc une transparence sur les prix, ça, vous allez l'étendre à d'autres produits?
On a des discussions, l'idée, c'est d'avoir les meilleures pratiques, mais sachant que, et ça c'est quand même important aussi de le dire, c'est que dans tous les produits, dans tout chez Lidl, un produit égale un prix en France. Vous n'aurez pas de différence en fonction du Lidl, s'il est dans le nord-ouest ou dans le sud de la France, ça sera le même produit.
Alors sur ce salon, il y avait aussi la présence de McDonald's qui a affirmé ses engagements auprès des filières françaises. Le groupe promet une enveloppe de 3,5 milliards d'euros d'achats dans le pays. D'ailleurs, vous avez lancé un projet pilote avec eux sur la transition écologique. Qu'est-ce que ça implique pour les agriculteurs en termes de coûts notamment pour eux?
Alors l'idée avec ce projet porté par McDonald's et Lidl, c'est une première en France. L'idée, c'est aussi de passer à l'échelle et d'être aux côtés réellement des filières agricoles. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça concrètement en les aidant à investir en amont, dans l'amont agricole en réalité, c'est-à-dire sur leur exploitation. On leur aide à avoir des outils de diagnostic performants, à changer leur méthodologie de travail aussi, pour qu'ils puissent ensuite pourvoir à nos besoins, nous distributeurs. C'est un exemple, on aimerait le dupliquer, mais c'est une best practice de ce qui peut se faire de mieux entre les distributeurs, les agriculteurs, l'amont et l'aval de la chaîne.
Est-ce que ça permet aussi d'améliorer la traçabilité? Parce que c'est aussi un sujet clé. Aujourd'hui, les Français souhaitent vraiment connaître l'origine des matières premières dans les produits qu'ils consomment. Comment vous traitez ce sujet-là de traçabilité?
Alors, l'origine, c'est un grand sujet aussi pour les agriculteurs et leurs représentants syndicaux. On a passé beaucoup de temps avec les organisations syndicales ces derniers jours et ils nous disent tous que le volume, la valeur et l'origine sont des sujets clés pour eux et pour l'avenir de l'agriculture de demain. Comment on fait? Déjà, première réponse, on suit la réglementation. C'est un impératif. On veut être le plus transparent possible. Et ensuite, cette transparence, elle peut être encore plus poussée que ce qui est légalement admis pour nous, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui sera originueux, vous aurez vraiment les pays d'origine d'où proviennent les produits. Ensuite, tout ça s'intègre quand même, nous, dans un sourcing et une préférence nationale, puisque notre objectif, nous qui achetons en France, et c'est vraiment de privilégier l'achat et le sourcing local, les produits français.
L'achat en France est 76 produits français hein, dans les rayons de chez Lidl, c'est bien ça?
C'est ça.
Justement, quelle est votre vision par rapport au Mercosur? Est-ce que vous comptez y participer?
Non, pas du tout. On a été très clair là-dessus dès le début des débats quand on a été interpellés pour dire qu'effectivement, nous ne souhaitions pas de produits issus du Mercosur dans nos rayons, même dans les alimentations, dit les aliments transformés, hein, non bruts. Donc ça, on a été très clair dessus. Nous, on a aussi un sujet et une particularité, je vous le disais au début, c'est qu'on est un modèle européen. Et ce qu'on sait moins de Lidl, c'est que Lidl exporte les produits français à l'échelon européen. Aujourd'hui, c'est 1 milliard, par exemple, de produits en valeur qui ont été exportés l'année dernière.
Alors justement, c'est intéressant parce que Lidl est quand même, se développe beaucoup aux États-Unis, notamment. Quelle est la réception faite de Lidl là-bas?
Alors, beaucoup, je ne sais pas.
Un petit peu. C'est vrai que vous avez de la concurrence avec Aldi, mais en tout cas...
On a un peu de concurrence. C'est un démarrage. Le marché américain, c'est un marché qui est foncièrement différent du marché européen. Et en réalité, c'est aussi, pour nous, c'est le signe qu'un modèle européen peut fonctionner. Oui. Et c'est aussi le signe que le modèle du discount que nous défendons est un modèle qui peut répondre au pouvoir d'achat, même mondialement. Mais la réalité aujourd'hui, c'est vraiment que nous sommes très implantés en Europe. C'est notre cœur. En réalité, c'est un groupe allemand, hein, vous le savez, qui est depuis 35 ans en France. Et c'est nos premiers marchés, même si effectivement, on se développe aux USA.
Alors Anouk, vous êtes la porte-parole officielle de France, pour Lidl en France, hein, on peut le dire. Qu'est-ce qui est prévu là dans cette année à venir? On le rappelle, Lidl c'est 8% de part de marché. Est-ce que vous avez prévu des ouvertures? On parle beaucoup de proximité, c'est ça hein, le créneau fort pour les distributeurs aujourd'hui. Où est-ce que vous allez vous implanter? Est-ce que vous allez ouvrir d'autres magasins cette année?
Alors bien sûr, on va en ouvrir. Ça, c'est vrai que le rythme de croissance est reparti, si je puis dire. Nos ambitions, elles ont été très claires et fixées par notre CEO John Paul Scali. C'est donc 2000 magasins à échéance 2020, donc ça veut dire qu'il faut quand même être dans un rythme d'ouverture assez rapide. L'idée, c'est d'ouvrir une quarantaine à peu près de magasins et d'avoir un magasin Lidl à 10 minutes de chaque Français, c'est l'objectif. Aujourd'hui, on en a 1600, c'est énorme, hein, ça donne une bonne granularité, une bonne pénétration territoriale, mais il faut aller encore au plus proche, parce que la proximité, elle est clé dans le modèle du discount, ce qui fait que c'est des magasins qui sont plus petits que des hypermarchés, dans lesquels vous pouvez faire vos courses en 40 minutes et avec un assortiment réduit.
Et vous renouez un petit peu avec le Lidl d'autrefois? Est-ce qu'on abandonne cette premiumisation de Lidl qu'on commençait à connaître ces dernières années?
Pas du tout. Les clients qui sont chez Lidl, c'est un miroir de la société française. Donc vous avez tous les budgets. On a aujourd'hui 41% de nos clients qui sont CSP+, on ne le sait pas trop, donc des catégories plutôt aisées, ce qui veut dire que le modèle de discount répond à tous les enjeux dès que la qualité reste présente et on va continuer à faire ça. Il faut répondre aux besoins de tous les Français.
Mmh. Et juste rapidement, votre marché en croissance ailleurs à l'international, c'est lequel ?
La France est une priorité.
La France est une priorité. J'avais une dernière question avant de terminer cette interview. C'est vrai que votre ambition, c'est aussi d'arriver à réduire les émissions carbone à hauteur de 55% d'ici à 2030. Là, vous partez de moins 32. Comment est-ce que vous comptez faire?
On regarde ça de très, 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 très près. En réalité, on a fait beaucoup déjà d'évolutions sur le scope 1 et scope 2. Je suis désolée, ça devient technique, mais on a fait moins 32% en 2 ans. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on sait déployer très rapidement à l'échelle sur l'ensemble de nos magasins les outils pour être plus performants environnementalement. Et ça, on le sait parce qu'on est, on est un modèle intégré.
Merci beaucoup, Anouk, d'avoir été avec nous. Restez là, on passe tout de suite au focus de notre expert.
Focus Retail, le focus.
Alors François, c'est vrai qu'on parle souvent des tensions entre les agriculteurs et la grande distribution, notamment sur la question des prix. Pour autant, la distribution, ça peut être un vrai levier de cohésion.
Oui, complètement. C'est-à-dire que cette relation agriculteur-distributeur, elle est essentielle. Donc l'important, c'est vraiment que tout ce qui peut la faciliter, l'enrichir, toutes ces initiatives-là sont importantes. On peut parler des initiatives locales, comme les alliances locales de Leclerc ou U-Local est engagé. Et beaucoup d'enseignes ont ce type de démarche, je sais que vous les avez aussi. L'idée étant de pouvoir permettre une relation directe entre le magasin et le producteur pour à la fois une meilleure rémunération et lui sécuriser aussi le débouché pour ses volumes.
Au-delà du prix, de la question du prix, est-ce que la grande distribution peut influencer directement les pratiques agricoles?
Complètement, c'est-à-dire que ça fait des années que ça existe à travers les filières. Là, on parle d'agroécologie. Carrefour incite ses partenaires depuis 2013, et que vous êtes lancé aussi sur cette démarche-là. C'est protéger l'écosystème tout en gardant une rentabilité suffisante des terres. Et quand les grands acteurs de la distribution changent leurs standards, clairement, il y a un impact du producteur jusqu'au consommateur.
Et puis sans oublier l'impact social sur les territoires directement.
Évidemment, et je suis content qu'on en parle parce que les magasins, c'est évidemment des lieux où on fait les courses, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui tous les jours travaillent dans ces magasins-là. On peut estimer sur les zones rurales en France que la proxy, les petits supermarchés, c'est environ 300 000 emplois, donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc ça crée de la vie, des emplois dans les zones, je dirais, qui en ont vraiment besoin. Et le deuxième aspect, c'est sur l'aspect de la nature même de l'activité, puisque quand je suis centre auto, centre optique, parapharmacie, j'apporte ces services-là dans le territoire. Donc, en résumé, les magasins ont vraiment aujourd'hui un rôle, un maillon fort de cohésion du territoire.
Merci beaucoup, François, pour votre expertise. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.
Focus Retail, le pitch de la start-up.
Et Louise Bonne nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue Louise. Vous avez une exploitation familiale avec votre frère, votre mari. Vous produisez des céréales, des pommes de terre, du maïs. Mais pas seulement, vous faites aussi des produits.
Oui, tout à fait. On est agriculteur exactement et on a un élevage de porcs. Et donc avec ces porcs, on fait de la diversification. On a un magasin à la ferme avec un labo de transformation. Donc, c'est-à-dire qu'on fait tout de A à Z chez nous. Et donc on fait tout, ainsi que du saucisson.
Alors justement, parlons-en. Vous nous avez apporté du saucisson. C'est grâce à ça que vous avez décroché une médaille d'argent sur le très prestigieux concours agricole. Donc félicitations. C'est votre première médaille. C'était la première fois que vous participiez?
Non, c'est la première fois que j'ai une médaille, mais c'est la deuxième fois qu'on participe au concours. On y a participé l'année dernière. On a rectifié, on a su prendre les commentaires. C'est toujours pour ça aussi qu'on fait un concours, c'est toujours bon à prendre. Comme on dit, les commentaires sont toujours bons à prendre. Ben voilà, on en a fait bonne escience et aujourd'hui, on a juste rajouté une semaine de séchage et ça a donné son mérite. Ah. On a eu la médaille d'argent.
Oui, parce qu'il faut le dire, donc le concours agricole, il y a 20 000 produits présentés chaque année à ce concours. Un produit sur quatre est récompensé. C'est un jury de plus de 7 000 personnes. Ça s'étale sur plusieurs jours. Des médailles de bronze, d'argent et d'or. Cette médaille, ça peut être un tremplin pour certaines marques, pour certaines PME, pour certains agriculteurs comme vous. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette médaille?
Alors concrètement, au début, on l'a fait pour nos équipes parce que derrière, à la ferme, j'ai quand même 9 salariés qui travaillent avec nous. Donc c'est se dire, bravo les gars, c'est bien, on travaille bien, on revient avec le mérite de se dire, bah, je suis parti 10 jours au salon de l'agriculture, mais je reviens avec une médaille, je reviens avec le fruit de votre travail qui est bien fait. On a été félicité entre guillemets. Et la deuxième propulsion, c'est qu'aujourd'hui, nous, où est-ce qu'on est situé dans notre ferme? On est en train de développer complètement. On a triplé notre labo, on a doublé notre séchoir. Donc, même si les clients se l'arrachent déjà, on se dit qu'on va avoir un volume supplémentaire. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une visibilité supplémentaire, de se dire, j'achète un saucisson médaillé. Mmh. Je pense qu'on aura aussi cet honneur-là.
Oui, on parle de visibilité, mais il y a aussi un effet sur les ventes, un sacré impact quand même, car en moyenne, semaine, un produit médaillé fait croître ses ventes. Je crois que c'est plus 24% en moyenne sur les ventes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. D'ailleurs, vous vendez où vos produits en général?
Alors, aujourd'hui, nos produits, on les vend principalement chez nous, à la ferme. On a déjà un beau potentiel de clients chez nous. Mais justement, le fait de développer, c'est aussi de pouvoir amener le produit ailleurs. Et le fait, je pense, d'avoir la médaille, on n'arrive pas juste avec son saucisson. On arrive avec un saucisson médaillé. Et je pense que du coup, ça peut permettre de placer plus facilement son produit.
Et d'aller toquer aux portes de la grande distribution, finalement.
Oui, peut-être pas encore, mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'échelle où on est, déjà d'aller développer sur des petites boutiques qui sont près de chez nous. Mais après, oui, pourquoi pas? Ça peut ouvrir d'autres...
Alors aujourd'hui, vous avez eu le saucisson. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées en tête pour les années à venir sur d'autres produits que vous fabriquez?
Oui.
Vous ne pouvez pas en dire
oui,
plus.
Oui, on ne va pas s'arrêter là.
Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, on se dit pourquoi pas la rillette, pourquoi pas plusieurs zones de charcuterie. Parce que, en fait, on a un gros panel à la ferme. Donc, on se dit rillette, les terrines de campagne. En fait, d'essayer de mettre le produit fermier à l'honneur, en fait.
C'est vrai que ces médailles, on les connaît beaucoup. Et là, je m'adresse à Anouk, mais notamment sur le vin. Il y a 12 000 vins qui sont présentés parmi les 20 000 produits, justement. Vous, comment est-ce que vous référencez vos produits? Parce que vous avez des produits de jeunes PME, des produits que vous... comment vous les sourcez, ces produits-là?
Alors, il y a plusieurs manières de faire. En réalité, les TPE et les PME, le sujet, c'est peut-être celui que vous rendez possible là. Il n'est pas forcément tout le temps possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément accès aux produits de la même manière aussi vite les acheteurs qui sont sur nos à Châtenay-Malabry, sur nos fournisseurs avec une relation, je disais, durable. Ils n'ont pas forcément le sourcing de ces petites pépites comme celles qu'on voit là aujourd'hui. Donc il y a un premier sujet, c'est comment abolir les frontières, comment faire en sorte que on soit plus proche pour trouver le meilleur du patrimoine gustatif français. Ça, on a plusieurs manières de le faire. La première, c'est nous, on a un partenariat avec la FEF, donc la fédération qui représente les PME et les TPE dans ce pays. Et elle nous permet, et ce partenariat aussi, nous permet d'avoir aujourd'hui 40% de produits qui sont issus des TPE et PME dans nos rayons. Donc c'est un premier moyen. Et puis ensuite, il y a rapprocher nos acheteurs dans leur réalité d'achat avec nos fournisseurs futurs, en tout cas. Et ça, on fait une journée annuelle au siège avec tous les fournisseurs et une journée spécifique pour les PME et les TPE pour qu'on voit le meilleur de ce qu'ils puissent nous donner.
Donc vous soutenez justement l'économie locale. Tout à l'heure, vous nous en parliez un petit peu. Comment, parce que vous contribuez à exporter ces produits-là justement ailleurs dans le monde, de quelle manière est-ce que vous faites ça?
Alors c'est assez simple. En réalité, nous, une fois que l'assortiment est convenu, en réalité, il peut aller sur d'autres marchés si on sent le besoin, mais avec la même technique, la logistique est tout à fait sur un modèle européen, donc c'est très facile pour nous d'envoyer de la marchandise à l'étranger, avec des acheteurs qui sont des acheteurs qui parlent aussi au niveau international. Donc en réalité, le modèle est intégré, et c'est plus simple pour nous. C'est 400 000 litres de vin l'année dernière qui a été exporté sur l'échelon européen.
Vous avez aussi une approche de territoire de demain, enfin, pour justement vous rapprocher des agriculteurs et mieux connaître leurs besoins. Est-ce que ça peut s'appliquer à ce type d'exploitation?
Alors, terres innovantes ou territoire de demain? Terres innovantes, oui. Nous sommes mécènes de terres innovantes. Terres innovantes, c'est une initiative qui a été lancée par les jeunes agriculteurs, les JA exactement, et qui en fait permet de rapprocher aussi le modèle de la grande distribution, les jeunes qui seront les agriculteurs de demain, parce qu'il y a aussi un sujet de renouveau des générations. Aujourd'hui, un agriculteur sur deux en France a plus de 55 ans, donc ça pose très vite des questions aussi d'approvisionnement. Et donc ce type d'initiative est vraiment à souligner, parce que c'est exemplaire en réalité.
Louise, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année à venir?
Eh ben, déjà que le fruit de cette médaille nous amène plein de clients. Après aujourd'hui, oui, c'est une fierté. Je me dis que je viens au Salon de l'Agriculture bon, la médaille, et puis pour aussi pour se faire connaître, pour avoir une visibilité, pour avoir plus de clients, pour développer notre chiffre d'affaires, on va pas se mentir, on a beau être une petite exploitation agricole, aujourd'hui on veut se développer, on a des emprunts, on a tout ce qu'il faut pour devoir travailler. J'ai 9 salariés avec moi, on nourrit 12 familles avec moi, enfin c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un développement qui on espère se propulser.
Merci beaucoup Louise d'avoir été avec nous. Restez là, on passe tout de suite à l'actu de la semaine. François, le salon de l'agriculture n'est pas le seul à mettre les agricultures à l'honneur. C'est même devenu un enjeu de communication clé pour justement les enseignes et les marques.
Exactement. Parler de celles et ceux qui produisent, les montrer, c'est devenu un enjeu de communication majeur pour et les enseignes et les industriels. On peut prendre deux exemples d'actualité avec par exemple Thierry Cotillard, le président du groupement des Mousquetaires, qui fait une énorme promotion sur le film documentaire qui va sortir, qui s'appelle Rural, hein, avec Jérôme Bell, qui était une figure de proue du mouvement agricole. Et côté industriel, on peut parler de Sodial, Oui ou les Français, qui est leur campagne, et derrière laquelle ils mettent, notamment sur leur site, plein de productrices partenaires, avec photos, profils. L'idée étant vraiment de faire le lien entre les agriculteurs et les consommateurs.
Alors c'est vrai, tout à l'heure on parlait de ce score mis sur les produits. Justement, est-ce que les consommateurs, ils ont envie de transparence?
C'est clair, enfin, j'en parlais déjà tout à l'heure, parce qu'il y a 85% des Français aujourd'hui qui disent être très sensibles et vouloir connaître l'origine de la matière première qui sont dans les produits qu'ils consomment. Et parmi eux, c'est 59% qui disent qu'ils le veulent parce qu'ils veulent protéger les agriculteurs en France. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu pour les distributeurs là-dessus, et ça veut dire une traçabilité totale, c'est pour ça que je parlais la question tout à l'heure, c'est que il faut vraiment être capable de savoir ce qui se passe du champ jusqu'au magasin, donc ça veut dire de la technologie, des caisses connectées pour suivre le produit complètement, et vraiment investir sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet majeur de consommation.
Et ça se traduit aussi en magasin?
Oui, alors... Moi, je pense que aujourd'hui, faire de la pédagogie, apporter, ramener la valeur de ce qu'est la production, de ce que sont les filières dans les magasins à travers de la dégustation, eh bien, ça a tout à fait sa place. Et je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que les agriculteurs eux-mêmes pour faire ça. Et c'est un petit fils agriculteur qui vous en parle.
Merci beaucoup François, le message est passé. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur cette émission spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Focus Retail. Cette fois-ci, on sera de retour dans nos studios. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi dans la matinale de BFM Business.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.